Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. Porter un masque ou pas, le débat refait surface après les images d'un concert hier sur la promenade des Anglais à Nice. Une foule compacte qui ne respecte pas les distances de sécurité. À chacun de prendre ses responsabilités, répond la préfecture des Alpes-Maritimes. Le Premier ministre en Guyane, dernier département en état d'urgence sanitaire avec Mayotte, 6000 cas de Covid recensés. La Guyane qui demande des renforts en effectifs et en moyens. Dans ce journal également, des tests en pharmacie, c'est maintenant possible et c'est très facile. La Pologne est son président, populiste ou libéral europhile, les deux candidats sont au coude à coude. Un enfant de 9 ans qui se noie dans une piscine à peine arrivé en vacances en Vendée, le moment de rappeler des conseils de base pour la baignade. Le retour au stade pour les joueurs du PSG en match amical ce soir au Havre, et puis la météo du bleu partout sauf sur les Pyrénées.
France Inter.
Des milliers de personnes qui dansent sur la promenade des Anglais. Les images du concert donné par le DJ français Vievner ont fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une foule compacte à touche-touche. Des images qui ont fait réagir de très nombreux internautes. La mairie de Nice répond que toutes les conditions de sécurité et notamment la limitation des 5000 personnes ont été respectées. Marion Chantreau à Nice.
La municipalité s'en tient pour le moment à ces quelques mots, mais la polémique enfle sur Twitter, Facebook, Instagram. Les Azuréens se disent ahuris. Un crachat au visage des soignants, lit-on sur un commentaire. Les gens sont irresponsables. La faute est imputée aux organisateurs, à la mairie, aux autorités préfectorales. Patrick Allemand, candidat du parti de gauche Nice au cœur aux dernières élections municipales, parle d'incohérence. C'est une faute, il y aura des comptes à rendre, écrit-il sur Twitter.
C'est très compliqué quand même. C'est même pas tellement le concert, c'est ce que ça véhicule derrière, entre guillemets, de subliminal. C'est-à-dire que les autorités autorisent un concert à 5000 personnes comme ça. Comment est-ce que derrière, vous allez dire aux jeunes qu'il faut respecter la distanciation sociale, qu'il faut porter le masque dans les transports en commun, aux restaurateurs qu'il faut bien 1m50 entre chaque table, etc., etc. Les gens, ils comprennent plus.
Philippe Vardon, conseiller d'opposition RN à Nice, a lui beaucoup de mal à comprendre la logique de la municipalité et de la préfecture. Lionel Lucas, le maire LR de Villeneuve-Loubet, écrit lui sur le réseau social ce qui s'est passé à Nice hier soir, avec une foule compacte lors de ce concert, est incompréhensible, invraisemblable et pour tout dire irresponsable.
Marion Chantreau, cette soirée niçoise ne fait que reproduire ce qui s'était déjà produit partout le 21 juin pour la fête de la musique, et c'est bien le problème, ce relâchement des comportements dont on parle depuis de nombreux jours. Ce matin, dans une tribune au Parisien Dimanche, des médecins de renom appellent à rendre le masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, ce qui ne veut pas dire qu'il soit inutile ailleurs, à l'extérieur, quand les distances ne peuvent pas être respectées, mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Pour le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, Rémy Récio, les pouvoirs publics ont fait leur travail, il l'a dit au téléphone de Cécilia Arbona.
Ça n'était pas un concert avec des chaises et des phases statiques, mais un concert avec de la déambulation. Et je suis convaincu qu'il n'y a personne dans ce pays entre 3 ans et 99 ans qui ignore ce qu'est un geste barrière. Je regrette qu'il y ait eu peut-être des attroupements et que les gestes barrières n'aient pas été respectés, mais je crois que si le pays appelle à une reprise de la liberté, cette liberté, elle passe de manière impérieuse par une reconquête aussi de la responsabilité. Et quelle image d'infantilisation de la population aurions-nous donné pour expliquer que les gens ne sont pas capables d'avoir compris quel était le message reçu et que nous soyons obligés de mettre autant de policiers que de personnes qui se rendent à un concert. Nice hier, dans un contexte qui est celui de Nice, à 2 jours d'un anniversaire particulièrement cruel et douloureux pour les Niçois. Nice était belle hier. Elle était belle parce qu'elle était le symbole d'une reprise de la vie. Et c'est cela le message fort qui doit être retenu, plutôt que certains qui prennent, je dirais, la fâcheuse habitude de rechercher la polémique systématique.
Voilà, rester responsable et vigilant pour éviter une deuxième vague de l'épidémie, c'est aussi ce que devrait rappeler le Premier ministre Jean Castex en déplacement en Guyane. Aujourd'hui, son premier déplacement hors métropole, il l'a donc réservé au département le plus touché par l'épidémie de Covid, la Guyane, où plus de 5500 lits sont occupés dans les hôpitaux, 90% des disponibilités. Pour le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, un message de solidarité du Premier ministre ne suffira pas, car la Guyane a besoin de moyens et de personnels médicaux supplémentaires, il l'a dit à Victor Maté.
de sa visite, on attend tous les éléments en termes de réserve sanitaire, en termes de fluides, automates, réanimateurs. Nous avons reçu 8 tonnes de matériel, 20 médecins supplémentaires, en particulier du régiment de Mulhouse. Actuellement, il faudrait plus de 150 médecins, voire à 200 médecins à l'heure actuelle. Je parle sous couvert des études qui me sont donc remises entre 200 médecins. Il faudra automatiquement les faire venir, que ce soit en vol affrété ou vol spécial, infirmières réanimation, obstétrique, etc. Ensuite, il y aura les grandes questions d'ordre économique, la restauration, les hôtels. Donc on attend effectivement une compensation, une spécificité par rapport au territoire, puisque la Guyane, elle est en même temps dans un semi-confinement avec des couvre-feux. Donc il est un peu normal que les entreprises soient en quelque sorte indemnisées.
Le Premier ministre qui arrive donc cet après-midi à Cayenne pour une visite éclair de 8 heures se rendra notamment à l'hôpital et au centre de crise interministérielle. En attendant, on peut maintenant se faire tester en pharmacie. Depuis hier, les pharmacies sont autorisées à réaliser des TROD, tests rapides d'orientation diagnostique, ce qu'elles attendaient de pouvoir faire depuis longtemps. Une petite piqûre au doigt et en quelques minutes, on peut savoir si l'on a fabriqué des anticorps au coronavirus. Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats de pharmaciens, au téléphone de Daniel Messager.
Concrètement, un test rapide d'orientation diagnostique se fait sur une goutte de sang capillaire, c'est-à-dire une goutte du bout du doigt qui se met sur un petit appareil qui permet au bout d'une dizaine à quinzaine de minutes d'avoir un résultat pour savoir si la personne a été en contact avec le virus et a développé des anticorps. Il faut attendre quelques semaines avant que les anticorps apparaissent, au minimum 2 semaines. Ça va permettre de faire des campagnes massives sur des millions de Français si les autorités de santé l'estiment nécessaire. Il faut que l'ensemble de la population française puisse avoir une solution pour savoir si elle a été en contact avec le virus et a donc développé des anticorps. Ça permet donc d'écarter les 90% en fait des cas où les Français n'ont pas été en contact avec le virus et de se concentrer sur ceux qui ont été en contact pour ensuite une confirmation.
En précisant qu'un résultat positif doit être confirmé en laboratoire.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Respecter les distances et porter un masque autant que faire se peut, c'est un minimum. On a vu que la Belgique avait étendu ce week-end le port du masque à tous les lieux publics clos, comme le demandent justement les médecins français. Une pratique qui a du mal à entrer dans les mœurs en France et qui semble beaucoup plus répandue chez tous nos voisins. La preuve, en Italie, où le masque n'est pourtant pas obligatoire, mais c'est devenu un réflexe. Antonino Gallofaro nous appelle de Rome.
Pour comprendre à quel point le masque fait partie intégrante de la vie des Italiens, à quel point ils l'ont intégré dans leur vie quotidienne, il suffit de se promener dans le centre de la capitale et de regarder les vitrines. Entre les pantalons courts, les jupes et les maillots de bain, on trouve désormais des masques de toutes les couleurs et même à paillettes pour les soirées. Dans la péninsule, tout le monde a un masque sur soi, prêt à être porté en tout temps, pour entrer dans les magasins, pour monter à bord d'un bus ou d'un train, pour se faire même couper les cheveux. Dans les restaurants ou les bars, il est obligatoire jusqu'à ce que le client atteigne sa table. Il peut ensuite l'enlever pour consommer, pour discuter, mais doit le remettre pour se rendre aux toilettes, pour payer l'addition et puis pour sortir. Le personnel le porte en permanence. Le porter est la normalité. C'est donc le fait de ne pas l'endosser qui crée des tensions. Dans ce bus, par exemple, cet adolescent a été contraint de descendre quand plusieurs personnes lui ont fait noter qu'il ne portait aucune protection. Le chauffeur de bus a même été pris à partie. La mesure est encore plus stricte en Lombardie, la région la plus touchée par le virus. Le masque est obligatoire partout, encore jusqu'à ce mardi au moins. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Jusqu'au président Trump aux États-Unis qui a enfin trouvé un masque. Il est apparu avec en public hier pour la première fois. Revers de la médaille, c'est qu'on retrouve des masques et des gants dans les fleuves. 7 grands fleuves européens qui ont été sondés par la fondation Tara, dont la goélette a parcouru le continent. Selon ses représentants invités ce matin sur France Inter, les prélèvements effectués au mois de juin dans la Tamise, le Rhin, la Seine, le Tibre et autres grands fleuves sont éloquents. Les masques et les gants de protection, dont beaucoup vont se retrouver en mer, viennent encore aggraver une pollution plastique qui est déjà, comme on sait, très préoccupante. En Pologne, 2 candidats qui n'avancent pas masqués, un président sortant populiste face à un libéral europhile. C'est un choix très clair quant à faire les électeurs pour le second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, second tour à suspense. Les 2 candidats, le président Duda et le maire de Varsovie, Tsakovski, sont au coude à coude dans les sondages. La situation économique et sociale, mais aussi des sujets de société peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ludovic Piétenu à Varsovie.
Et ce sont dans les grandes villes comme ici que Rafał Trzaskowski compte le plus de soutien dans cette population citadine, plus jeune, plus ouverte, plus européenne. Parmi ses électeurs, beaucoup osent la comparaison avec Kennedy pour son éloquence et son visage séduisant. D'autres évoquent Mitterrand pour sa grande culture. Et tous fondent sur lui beaucoup d'espoir pour ramener la Pologne dans la famille européenne et le respect de ses valeurs démocratiques. Face à lui, avec un discours nationaliste, populiste et conservateur, Andrzej Duda a séduit il y a 15 jours 43,5% des électeurs, quasi la moitié des Polonais, avec 13 points d'avance sur son challenger. Peut-on dire qu'il est en ballotage favorable ? Sur le papier, oui, mais il n'a pas la dynamique de son côté. Il faut rappeler qu'il était donné gagnant dès le premier tour, il y a encore 2 mois. Il n'a fait depuis que dégringoler. Tout va donc dépendre de la mobilisation de ces deux Pologne. Duda a un avantage, son électorat est compact et peut faire bloc, là où celui de Trzaskowski est plus éparse, moins fidèle d'une certaine façon.
Ludovic Piétonu en direct à Varsovie. C'est l'été, le temps des baignades. Attention, on le dit chaque année, un enfant de 9 ans est mort noyé dans la piscine d'un camping hier en Vendée. La famille venait tout juste d'arriver après 600 km en voiture. Le garçon est parti seul, se baigner 3 minutes avant la fermeture et peut-être a-t-il fait un malaise. C'est l'occasion de rappeler les conseils de base pour éviter les drames. Claire Bouette, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, au téléphone de Jean-François Fernandez.
Le risque principal, c'est le risque d'hydrocution, c'est-à-dire que le corps va réagir à un choc thermique entre la chaleur de l'air extérieur à laquelle il a été exposé et la température de l'eau, ce qui crée un choc et donc peut entraîner des phénomènes de noyade. Alors ce phénomène d'hydrocution, il est en plus renforcé notamment sur les phases de digestion. Donc après les repas, quand on a été exposé aux fortes chaleurs, il faut éviter absolument de se jeter dans l'eau de façon brutale parce que ça peut entraîner des noyades. Mais alors l'idéal, c'est d'entrer progressivement, c'est de se mouiller la nuque. La nuque, c'est un endroit important. Donc entrée progressive, on se mouille la nuque, on se mouille le buste et puis ensuite on peut s'immerger. Mais c'est vrai qu'une entrée progressive est toujours mieux que de se jeter de façon violente dans l'eau.
Et oui, attention aux baignades sauvages dans les rivières, les étangs, les canaux également. Attention à ne pas plonger inconsidérément. Il peut y avoir de la vase, des cailloux ou des carcasses de vélo. En sport, 4 mois qu'on l'attendait, que les supporters l'attendaient. Le retour au stade pour voir un match de foot. Et pour les Havrais, tout particulièrement ce soir, quel retour en fanfare avec en visiteur les Parisiens, champions de France. Le PSG qui prépare ses 2 finales, de Coupe de France et de Coupe de la Ligue et la phase finale de la Ligue des Champions. Match amical donc ce soir, mais qui a aussi son importance après 4 mois tout juste d'interruption, Jean-Pierre Blimaud.
Le dernier match des Parisiens remonte au 11 mars, lorsque le PSG a éliminé Dortmund lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions dans un Parc des Princes à huis clos. Après le confinement, puis la reprise de l'entraînement le 22 juin, les Parisiens retrouvent donc le terrain face à une équipe havraise, elle aussi en pleine préparation, pour un premier galop d'essai avant 3 échéances capitales. Pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, pas question de mettre en danger ses joueurs dans les 2 semaines qui viennent.
Le plus important est qu'on reste sans grande blessure, qu'on retrouve notre rythme et on doit être très très attentif.
Le PSG ne pourra pas compter sur son buteur fétiche Edinson Cavani ou sur les défenseurs Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. Le club n'a pas souhaité les conserver pour la saison prochaine et ils n'ont pas accepté de jouer les prolongations pour finir la saison en cours. Au contraire du capitaine Thiago Silva qui restera lui jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. Mais pas question de se lancer dans un recrutement précipité. Thomas Tuchel.
Si on achète un joueur maintenant, il ne peut pas jouer dans les finales, il ne peut pas jouer dans la Ligue des Champions et pour ça, le mercato c'est pour après la Ligue des Champions.
Le PSG peut espérer gagner 3 titres en un peu plus de 4 semaines. Le sentier de la gloire débute peut-être ce soir au Havre.
Le Havre PSG à 19h avec 5000 supporters, bien sûr, pas plus. Allez, pour ce dernier 13h, le dernier pour moi, dernier plaisir de lancer une critique cinéma d'Eva Bétan. Alors ce ne sera pas une comédie, bien sûr, mais pas forcément non plus un film polonais sous-titré en croate. Non, juste un bon film. En l'occurrence, un film de Vero Kratzborn. Ah oui, quand même. La forêt de mon père. Ludivine Sagné à l'affiche, titre poétique, qui cache un sujet grave. Ah oui, quand même, Eva Bétan.
Il faut parfois édulcorer pour rendre acceptable pour soi et pour les autres, pour le spectateur notamment, embellir même un peu. Cela s'explique car c'est vu par le regard d'une adolescente de 15 ans qui aime son père quitter de toutes ses forces son inquiétude. C'est amusant d'avoir un papa qui réveille ses trois enfants pour aller regarder les étoiles la nuit dans la forêt. C'est moins drôle quand il les y laisse pour quelques minutes et oublie de revenir. On se croirait dans un conte, mais on comprend le fil ténu qui sépare l'originalité et le trouble psychique, le comportement atypique et la mise en danger possible de soi et des autres. La belle idée est de situer cette problématique dans une famille baignée d'amour. Amour des parents entre eux, des parents et des enfants, ce qui rend plus difficile les éventuelles décisions à prendre. Il y a peut-être trop de péripéties dans le scénario, certaines deviennent artificielles. La cinéaste n'avait pas besoin de ces béquilles. Défaut mineur pour un film qui réussit l'essentiel. Sonnez juste, restez digne.
Et ça s'appelle La forêt de mon père. Merci beaucoup Eva Bétan. Dans un instant, la météo. D'abord un mot à l'occasion de ce dernier 13h pour remercier l'ensemble des personnels de France Inter, collègues journalistes, techniciens, assistants administratifs et j'en oublie tous ceux qui m'ont aidé à la préparation des journaux toutes ces années sur la plus belle radio du monde et qui le restera, bien sûr. Merci à tous et merci aux auditeurs pour leur bon goût. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski.
Le bleu va largement s'imposer cet après-midi sur la plupart des régions, sauf sur les Pyrénées et sur le Piémont, où le temps sera orageux avec à l'avant un voile assez dense sur les plaines du sud-ouest. Il faut y ajouter un risque d'averse pour les Alpes, sur les massifs provençaux et de la Haute-Corse. Les températures vont afficher 30 à 33 degrés sur les régions méridionales, 28 à 30 sur un axe Poitou-Charentes-Rhône-Alpes, 26 en moyenne à Rennes, Paris, Nantes, Reims, Strasbourg et Besançon, et 20 à 23 plus près de la Manche, où le vent de nord-est sera sensible. Demain, dans des températures en hausse dans la moitié nord, les massifs du sud vont conserver un risque d'averses et d'orages, sinon le soleil va s'imposer, mais l'après-midi, le ciel de la moitié nord du pays va se voiler avant l'arrivée de la pluie par la Manche dans la nuit de lundi à mardi.